Bon après-midi à tous. Encore une fois, vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de vous apporter la parole de Dieu. Et sur ce, je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va lire le passage qu'on va exposer aujourd'hui qui se trouve en Philippiens 1, versets 3 à 11. Mais en fait, on va partir notre lecture à partir du verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Père éternel, nous te remercions parce que nous avons tout en toi. Et maintenant qu'on s'approche de ta parole, je te prie, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre entendement, de nous nourrir par ta parole et de me permettre, Seigneur, de la communiquer adéquatement pour que tous soient exhortés, édifiés, incluant moi-même, et que par-dessus tout, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez prendre place. Donc, en ce début d'année 2026, où, en quelque sorte, un nouveau chapitre débute, une nouvelle étape, une nouvelle saison, on pourrait dire, bien, il m'a paru pertinent de prendre cette péricope-là, ce texte-là, parce qu'elle exprime, je trouve, merveilleusement les vœux d'un ministre pour les bien-aimés de sa congrégation qui persévèrent en toute occasion. Mes vœux qui sont aussi tout autant applicables pour chacun des frères les uns envers les autres. Donc, en ce début d'année, voyons voir ce que le Seigneur nous dit dans cette portion-là de sa parole. Pour débuter, en fait, lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul a providentiellement été mené en Macédoine pour y annoncer l'Évangile. Okay. En acte 16, on voit le début de ce récit-là. Et Philippe, la ville de Philippe, était une ville importante de la Macédoine et une des premières sur son chemin. Donc, il s'y arrête avec ses compagnons d'œuvre, logiquement, et fonde la première église qui est sur le continent européen. Et c'est au moment de cette implantation-là d'église, que Paul fait, par exemple, la rencontre de Lydie, si on se rappelle d'elle, ou femme qui nous est dit que son cœur avait été ouvert pour être attentive à sa parole. Et c'est à le même endroit aussi que, si on se rappelle du geôlier, que Paul a converti lorsqu'il était en prison. C'est le même récit. Et donc, les Philippiens ont spécialement marqué Paul par leur réception de l'Évangile qui était très enthousiaste. Ça l'a marqué. Et une relation profondément affectueuse en a été le résultat. Ça a été établi entre eux de manière toute particulière. Et Paul le démontre dans sa lettre, d'une part par ses propos envers eux, mais aussi de manière réciproque, par sa mention du fait que, ou du moins du désir des Philippiens d'exprimer leurs sentiments réciproques leur affection sincère envers lui par des divers dons pour subvenir à ses besoins. Et la générosité de la congrégation se rend même jusqu'à la cellule de Paul, qui était emprisonné à ce moment-là, fort probablement à Rome, au moment d'écrire son épître. Et celui qui amène ces dons-là, de la part des Philippiens, c'est un membre qui était particulièrement respecté. C'est un dénommé Épaphrodite, qu'on voit son nom quelquefois dans l'épître, et c'était probablement un des anciens de la congrégation. Mais Épaphrodite, lorsqu'il vient avec ses dons, il amène aussi des nouvelles. Il témoigne à Paul de la persévérance qui habite l'assemblée de Philippe, ce qui vient vraiment remplir le cœur de joie de l'apôtre. Et donc, depuis la prison, Paul écrit sa lettre, la lettre aux Philippiens, qui est notamment affectueuse, adressée à toute l'assemblée, en réponse à ces nouvelles-là. Et il inclut dans sa lettre l'importance d'une croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. Puis il le fait de plusieurs manières, par plusieurs encouragements, par des mises à jour théologiques, par sa propre recommandation d'Épaphrodite, de Timothée, de certains anciens. Mais il vient encadrer ces vœux-là pour eux par une exhortation qu'il répète très souvent, du moins à multiples reprises, dans l'Épître, celle de se réjouir dans le Seigneur. Et ce fait-là est tout à fait marquant. Parce que, sachant que Paul, à ce moment-là, justement, est emprisonné à Rome et qu'il risque la mort de manière imminente, l'Épître aux Philippiens, on sait que c'est sa dernière de ses lettres connues. Ce qui veut dire qu'elle a été écrite après toutes les afflictions que l'apôtre a vécues tout au long de son ministère. Et Paul, sans contredit, c'est indéniable, il est un exemple et un modèle du chrétien qui participe fidèlement aux souffrances du Christ. Personne ne peut nier ça. C'est même dans cet épître-là, ce chapitre-là même, qu'il dit « Christ est ma vie, mourir m'est un gain ». Et malgré tout ça, malgré toutes ces afflictions, il persévère néanmoins jusqu'à la fin de sa course, en disant, comme il le répète au chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Pourquoi je vous dis tout ça? Ces éléments-là du contexte immédiat et plus global de la lettre sont vraiment pertinents à être mentionnés parce qu'ils sont spécialement exprimés dans le passage qu'on expose aujourd'hui. C'est vraiment ces éléments-là sont la fibre qui compose son affection, l'expression de son affection dans les premiers versets de 3 à 11. Il nous illumine sur la base de l'affection que porte Paul envers les Philippiens et sur la prière qu'il exerce donc, ou qu'il fait, qu'il adresse en leur faveur. Et en fait, l'ensemble de la péricope, le verset 3 à 11, nous illumine sur la prière que l'apôtre fait, vraiment. Mais dans le fond, il commence continuellement par une action de grâce, suivie de l'expression de son affection, et vient ensuite sa requête. Donc on peut diviser ce texte-là en trois sections. Premièrement, verset 3 à 6, qui démontre la reconnaissance de Paul envers Dieu pour les chrétiens de Philippe, et ce qui fonde sa reconnaissance. Deuxièmement, versets 7 et 8, qui se situe au milieu vraiment comme une parenthèse qui va venir relier la première à la dernière section et qui vient expliquer l'amour que Paul a pour les Philippiens. Et troisièmement, versets 9 à 11, qui expose sa requête, c'est-à-dire le sujet et l'objectif de sa prière. Donc, première section. Versets 3 à 6, la reconnaissance de Paul envers Dieu pour les Philippiens et ce qui la fonde. L'apôtre Paul vient propulser sa lettre en témoignant de l'action de grâce qu'il élève envers Dieu et démontre de cette manière ses sentiments affectueux pour les Philippiens. Il commence en disant « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc l'apôtre se souvient de ses frères et sœurs. Il se rappelle son arrivée à Philippe, son travail missionnaire, particulièrement aussi le fruit que ça a donné. Il se remémore leur réception de l'Évangile et mentionne même prier pour eux en accompagnant ses prières sans cesse par des actions de grâce. Paul démontre son amour profond pour chacun des membres de l'Assemblée par l'attention qu'il porte à leur égard. Et en vrai, comment est-ce qu'il peut mieux démontrer son amour que par des actions concrètes en leur présence et des prières ferventes en leur absence? Mais le contexte de l'Épître nous indique aussi que les Philippiens semblaient persécutés et que des faux docteurs rôdaient près d'eux qui tentaient de corrompre la sainte doctrine qu'ils avaient reçue. Et Épaphrodite, lui que je vous ai mentionné au début, a mentionné cette situation-là à Paul. Quand il est allé le visiter à la cellule. Et il lui a également témoigné, néanmoins, de la fermeté de la congrégation face à ces adversités-là. Et la spontanéité de la réponse de Paul et ses diverses mises en garde nous mènent toutefois à comprendre que les Philippiens nécessitaient toutefois une exhortation afin de continuer à tenir ferme. Leur persévérance ne négligeait pas le fait qu'ils avaient été secoués par les épreuves. L'apôtre s'empresse donc de leur répondre, et un peu comme avec la convention de l'époque, après s'être identifié et transmis ses salutations, il débute sa lettre par une sorte de vœu bienveillant à ceux à qui il s'adresse. Mais sa prière ne se résume pas à un simple vœu bienveillant. C'est ça, en fait. La convention d'époque qu'il suit, c'est ce qu'on voit, les versets 3 à 11, c'est un peu la même manière. Mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas une salutation banale qu'il fait juste pour être poli. Sa prière est d'un sérieux et d'une sincérité qui est importante à souligner. Et c'est ce qu'on voit transparaître, premièrement, dans les versets 3 à 5, mais sous-tendu jusqu'à la fin. Et en fait, cette expression chaleureuse-là, et l'ensemble de sa prière introduit même l'exhortation qui va suivre tout au long de la lettre, ce qui favorise certainement la réception du message. Mais donc, inévitablement, les Philippiens vivent des difficultés et vont en vivre davantage. Mais Paul les encourage en rendant grâce pour l'œuvre déjà accomplie en eux. Et il intercède pour ce qui s'en vient. Calvin le présente merveilleusement. Il dit « La joie se rapporte au temps passé, la prière au temps venir, car il se réjouissait de cet heureux commencement et en désirait l'accomplissement. » Paul vient donc évoquer au verset 5 la raison de sa joie qui génère en lui une fontaine d'actions de grâce et qu'il fait maintenant persévérer dans l'intercession pour eux. C'est bien en raison et nul autre de leur participation à l'Évangile, depuis le premier jour et sans arrêt. Paul a vu le fruit de l'œuvre de l'Esprit se manifester promptement quand il a implanté cette église-là. Et il apprend maintenant que ses frères et sœurs ont persévéré jusqu'à ce jour-là. La peur que les Philippiens semblaient avoir à leur réception de l'Évangile est maintenant confirmé par leur persévérance. L'apôtre a planté, il voit maintenant que la semence a cru, qu'elle n'a pas atteint une mauvaise terre, rocailleuse, pleine d'épines, mais c'est une bonne terre fertile. Il leur a prêché l'évangile de la réconciliation, et il voit maintenant qu'ils sont bien avec Dieu, en communion. Et le mot communion, et d'ailleurs, ce qu'on traduit du texte original au verset 5 par la part ou participation. Il peut vraiment être utilisé comme des synonymes. Et donc, l'entrée en communion, ou l'entrée dans la participation à l'Évangile, c'est bien nul autre que l'œuvre sanctificatrice du Saint-Esprit en nous. L'œuvre que le Saint-Esprit vient faire en nous pour nous mettre à part. Il s'agit donc, premièrement, de notre union avec Dieu, ce qui est amorcé dès lors que l'Évangile est sincèrement et efficacement reçu par la foi. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Notre entrée en communion avec Dieu, ou notre union, est donc entamée par la prédication de l'Évangile, parole du Christ, qui est reçue comme une semence dans une terre fertile. Mais pour ce faire, pour que le terrain de notre cœur soit fertile, il se doit d'être proprement labouré. Il n'y a aucune terre desséchée qui peut en soi produire un arbre en santé, encore moins un fruit. Et comme on l'a lu à la confession des péchés, l'état de l'homme, en fait, comme l'a vu le prophète Ézéchiel, est comme celle d'ossements desséchés. Il n'y a pas de vie. Zéro. Il n'y a même rien à labourer. La sécheresse de ces eaux-là, c'est l'image de notre mort spirituelle. Non l'image d'une communion, mais d'une séparation totale et absolue de la présence de Dieu. Donc, comment est-ce qu'il peut vraiment y avoir un sujet de réjouissance, sérieusement parlant, qui soit possible? Comment est-ce qu'une vallée d'eau desséchée peut devenir une terre fertile? Comment est-ce que quelqu'un qui est spirituellement mort peut avoir communion avec celui qui est la vie? C'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles. Même la guérison d'un corps n'est strictement rien comparativement à la résurrection d'une âme. Si seulement l'homme pouvait réaliser le degré de sa dépravation, combien elle est profonde et radicale, il comprendrait comment il est inerte, comment il ne peut rien faire, qu'il est vraiment des ossements desséchés. Mais à la fois aussi comment Dieu seul est bon et saint. Donc une œuvre doit être faite. Un miracle, littéralement, doit être opéré. Un cœur de pierre doit être changé en cœur de chair. La terre doit être transformée en lieu fertile et labouré. Un homme a besoin d'oreilles pour entendre la parole de Dieu qui lui est annoncée. Et c'est ce qui est arrivé aux Philippiens. Ils ont reçu la prédication de l'Évangile avec foi et repentance. Ils ont subi une véritable conversion. Ils ont pris conscience de leur propre péché envers le seul vrai Dieu, qui lui est saint. Ils ont été brisés comme on brise la terre quand elle est labourée. La pierre fracassée, les racines défrichées. Et une nouvelle semence y a été plantée, celle de l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ crucifié pour eux. Et en réponse à ça, ils mènent depuis une vie de repentance. Depuis leur union avec le Christ, ils détestent leurs péchés et persévèrent à vivre une vie qui en est loin. Ils prennent maintenant plaisir à agir en accord avec la loi de Dieu. Ils cherchent ce qui lui est bon, agréable et parfait. C'est vraiment ce qu'est une conversion. Mais bien entendu, leur marche, elle, n'est pas parfaite. Le chrétien tombe parfois. Mais la différence, c'est qu'il s'en repent quotidiennement et ne demeure pas dans son péché. C'est un processus. Lorsqu'on vient à Christ, on se repent certainement des péchés qui frappent le plus notre conscience en premier. On pourrait dire nos plus grands péchés. Il y a un changement drastique qui a lieu. Il y a un changement de pensée, un 180 degrés. et on reçoit le pardon de Dieu par sa grâce, ce qui fait qu'il y a des actions qui en découlent. C'est ce qu'est la repentance. Mais plus on progresse, plus on est alimenté par les moyens de grâce que Dieu a établis pour son Église, la parole de Dieu, les sacrements, la prière, la communion fraternelle, et même la discipline ecclésiale. Plus on y prend part, plus le Saint-Esprit met en lumière le péché rémanent en nous. Et ceci nous pousse encore une fois, quotidiennement, constamment, à cette repentance-là quotidienne. Et plutôt que de nous décourager, ça devrait plutôt nous encourager. Et je sais que, naturellement, c'est un non-sens. On dit, comment est-ce que ça pourrait m'encourager? Je vais juste plus prendre conscience que je suis un pécheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la marque d'un enfant qui est sous le discipulat de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes, mais nous enseigne, nous discipline, nous guide dans la bonne voie. Et non seulement ça, il nous équipe pour passer à travers, pour le faire, par son Esprit qui est en nous et ses moyens de grâce. Et pensez-y deux secondes. Nous qui étions poussière, et qu'on était condamnés au feu éternel, il nous travaille comme il travaille une pierre précieuse. Comme l'argent, il nous travaille jusqu'à ce qu'on puisse voir son reflet. Et c'est ça le but, d'être conformé à l'image du Christ. Qu'est-ce qu'on répète toujours, les réformés? Soli Deo Gloria. C'est ça. Et les Philippiens, suite à leur union avec le Christ, au premier jour, ont donc depuis persévérer en communion avec le Christ. Ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part par Dieu, dès le premier jour. Mais cette sanctification-là s'est poursuivie de manière continuelle, parce que c'est un processus. Notre confession de foi, et d'ailleurs, je vous encourage fortement, si vous ne l'avez pas, on a des exemplaires en arrière, allez en chercher un, Confession de foi baptiste de Londres de 1689, elle nous dit au chapitre 13, paragraphe 1, ceux qui sont unis au Christ, qui sont efficacement appelés et régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau, créés en eux en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, sont en plus réellement et personnellement sanctifiés en vertu de la même puissance par sa parole et son esprit qui habitent en eux. Le règne du péché est détruit et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées, alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermis dans toute grâce salutaire, en vue de la pratique de la vraie sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça résume vraiment bien ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas? Donc, quel plus grand encouragement est-ce qu'il y a? Vraiment. Parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais on faisait partie de la vallée d'ossements desséchés. Et par la parole du Fils et la puissance de l'Esprit, ces os, ces ossements-là ont été ressuscités à la vie. Prenez un instant, juste regarde ta vie. Tu étais mort dans tes péchés. Tu étais privé de la gloire de Dieu à cause de tes offenses. Tu baignais dans ce péché-là et non seulement ça, tu l'aimais. Tu aimais ce péché. Tout ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu était pour toi sans valeur et tu te dirigeais droit en enfer. Mais même lorsque tu baignais dans ce péché, Christ est mort pour toi. Et en vertu de sa mort substitutive à ta place et de sa résurrection, tu as été uni au Christ. Tu es mort à toi-même, tu es ressuscité avec lui. Et par l'œuvre de sanctification de son esprit, la condamnation du péché n'a plus aucun effet sur toi. Elle n'a plus d'aiguillon. Et tout au long de ta vie, t'es progressivement délivré de la puissance du péché, mortifiant toujours plus ce péché-là, afin de vivre pour Dieu. Ton union avec Dieu te permet maintenant d'être en communion avec lui. Quel glorieux miracle, ossement desséché que tu étais. Quel glorieux miracle. Qu'un pauvre pécheur comme moi soit élu, appelé, justifié, continuellement sanctifié. C'est une œuvre que je ne peux pas faire moi-même. Par leur réelle participation à l'Évangile, en vertu de l'union qu'on a avec le Dieu Trine, les croyants entrent en communion avec lui par l'Esprit. C'est cette réalité-là qui cause une profonde reconnaissance chez Paul envers Dieu pour les Philippiens. Et cette réalité remplit d'autant plus son cœur de joie parce que cette communion devient aussi fraternelle. Les uns envers les autres. Parce qu'en Christ, tous ceux qui participent à l'Évangile sont désormais un même corps, une même famille. Comprenant donc que cette œuvre miraculeuse-là est au mérite de nul autre que Dieu lui-même, l'apôtre Paul continue au verset 6 en disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Alors, connaissant Dieu comme seul souverain, il sait que l'union des Philippiens à Christ aura assurément pour résultat leur communion persévérante jusqu'au dernier jour. Puisque c'est Dieu qui a commencé cette œuvre-là, que les ossements desséchés ne se sont pas ressuscités eux-mêmes, mais c'est par sa parole, par son esprit, il est persuadé qu'elle sera continuée et complétée par le même moyen. Par la même puissance que les Philippiens ont été régénérés, ils seront aussi progressivement sanctifiés et donc préservés par Dieu lui-même. L'apôtre évoque donc le fondement de sa reconnaissance envers Dieu. Cette œuvre est une œuvre divine. Comme il l'a dit aux Romains dans son épître, chapitre 8, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Je ne sais pas si vous le voyez, mais il utilise un temps de verbe passé pour quelque chose qui est assurément, ou du moins plusieurs choses qui sont assurément futures au moment où il écrit ça. C'est une réalité qui, dans les décrets éternels et immuables de Dieu, a déjà eu lieu. Il démontre que l'accomplissement de cette bonne œuvre est assuré parce que Dieu appelle ses élus et les mène souverainement à la perfection de leur sanctification. Et ça, ça aura lieu au jour de Christ. Que ce soit à leur mort corporelle ou au retour du Seigneur qui concorde avec le moment de la glorification. Mais celui qui a été uni au Christ est également préservé par celui qui a opéré cette bonne œuvre. Et de cette façon-là, il lui est donné de persévérer dans sa foi parce que Dieu a résolu en lui-même de persévérer dans son œuvre. Laissez-moi répéter ça. Celui qui a été uni au Christ est également préservé par celui qui a opéré cette bonne œuvre. Il lui est ainsi donné de persévérer dans sa foi parce que Christ a résolu, ou Dieu a résolu en lui-même de persévérer dans son œuvre. Parce que Dieu persévère à nous préserver, on persévère à le suivre. Parce qu'il a résolu en lui-même de nous sanctifier, il continue et mènera assurément à terme notre sanctification. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et il n'y a rien qui échappe à sa main. Cette bonne œuvre-là sera donc rendue parfaite pour le jour de Christ. Deuxième section, versets 7 et 8, l'amour de Paul pour les Philippiens. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. L'apôtre descend maintenant dans les profondeurs du témoignage de son amour pour ses frères de Philippe. Il débute le verset 7 en disant « Il est juste que je pense ainsi de vous tous. » En d'autres termes, il dit qu'il est raisonnable pour lui d'avoir cette assurance-là. Et bien évidemment que son assurance est de bonne mesure, parce que comme on l'a mentionné, il a vu le fruit de l'esprit chez les Philippiens, qui, en passant, est le gage de leur salut, et a appris que ce fruit agit depuis continuellement. C'est à cause de leur participation commune à l'Évangile de grâce qu'il est non seulement sûr de leur préservation et de leur persévérance, mais aussi qu'il les porte dans son cœur. C'est ce qui introduit la raison pour laquelle Paul manifeste son affection de cette manière-là dans les premiers versets. Et en effet, un bon berger qui mène à l'Évangile ses brebis, qui en prend soin, ne peut que déborder d'amour pour elles. Vraiment. Et il ne peut qu'éprouver un fort sentiment d'affection et de réjouissance à la réponse positive, sachant qu'ils vont toujours demeurer dans les parvis de Dieu s'ils sont dans sa main, qu'ils ne vont jamais tomber. Comme le dit Matthew Henry, qui lui-même était pasteur au 17e siècle, ceux qui entrent dans cette communion deviennent sans doute très chers pour le ministre. C'est bien vrai, mais c'est aussi pour tous frères et sœurs, les uns envers les autres, qui ont cette communion. De plus, participant à la grâce de l'Évangile avec Paul, ces mêmes brebis de l'Église de Philippe prennent aussi part à ses afflictions, étant unis d'un même cœur, et prennent part à la défense et la confirmation de l'Évangile, parce qu'ils sont unis d'un même but, persévérer dans la foi en Dieu et terminer leur course avec honneur. Soli Deo Gloria. Paul vient donc sceller l'expression de son amour en prenant Dieu comme témoin. Pour emprunter les mots de Calvin, il prend Dieu à témoin de la vérité parce que lui seul est la vérité, et aussi à témoin de son affection parce que lui seul sonde les cœurs. Il prête serment du fait qu'il chérit les Philippiens avec la tendresse de Jésus-Christ. Et le mot tendresse qu'on traduit ici, ben ça parle en fait d'entrailles. Le mot littéral dans l'original, c'est des entrailles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'affection la plus profonde qui soit. Paul indique de cette manière-là que son affection est véritable. Il ne peut pas utiliser de meilleurs mots pour ça. Véritable comme la tendresse qui se trouve en Jésus-Christ seul. Son amour est réel. Ses mots sont sincères, ne sont pas banals. Et il le démontre par ce serment solennel-là, qui, comme le dit notre confession, ne peut pas être fait ou être prêté par le nom d'un autre que Dieu lui-même, avec sainte crainte et respect. Donc, dans cette section-là, Paul ne quitte pas le fil conducteur de sa prière, mais il vient introduire ces deux versets pour venir ancrer et unir ses actions de grâce et ses requêtes. Et de cette manière-là, il justifie son et prouve vraiment son amour envers ses frères et sœurs de Philippe. Il poursuit la troisième section, versets 9 à 11. En exposant sa requête, c'est-à-dire le sujet et l'objectif de sa prière. Il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Sur la base de la bonne œuvre commencée par Dieu en les Philippiens, et à cause de son amour profond pour eux, l'apôtre énonce maintenant le sujet principal de ses prières. C'est-à-dire que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et de toute évidence, ayant été sauvé par amour, tout enfant de Dieu se doit d'être un ambassadeur de l'amour de Dieu et y croire personnellement, de toute évidence. Mais c'est toutefois important de noter que l'apôtre prie aussi pour que leur amour croisse en connaissance et pleine intelligence. Ce qui est particulier, surtout aujourd'hui avec... Bon, on n'ira pas vers là. Mais vous savez comment est-ce que l'amour peut être lancé comme ça, comme un terme qui en fait excuse les choses qu'on ne devrait pas, qui ne veut pas dire la vérité, ci et ça. Et je trouve ça particulier, sans nommer de dénomination, qui vont tout mettre sur l'amour de Dieu, mais vont nier la connaissance de qui est ce Dieu qui est amour. Et ça, ça parle. Et donc, il poursuit sa phrase au verset 10 en disant qu'il prie pour cette croissance premièrement dans le but qu'ils obtiennent du discernement. Et ça démontre que le « en connaissance et pleine intelligence », cette partie-là, est enfin le moyen de parvenir au discernement. Et en effet, sachant que la parole de Dieu est la vérité et le moyen de le connaître, le moyen de connaître Dieu. C'est en progression vers une plus profonde compréhension de la parole et du Dieu qui l'a inspirée que notre amour augmente. Parce que l'Esprit qui nous révèle cette vérité-là, c'est aussi celui qui produit en nous la sanctification. On progresse également en pleine intelligence. Parce que l'Évangile est sagesse pour nous qui sommes appelés. Il nous renouvelle notre intelligence et nous permet donc de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12. C'est ce discernement-là que Paul entend par celui des choses les meilleures qu'on lit. Et cette explication-là justifie pareillement la suite du verset 10, où Paul évoque que cette croissance a pour but que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. On a dit que notre sanctification est perpétuelle et en vue qu'on soit conformé à l'image du Fils, n'est-ce pas? Et ceci atteindra la perfection au jour de Christ. C'est-à-dire le même moment où l'apôtre fait mention au verset 6 qu'on a vu précédemment. Et cette claire référence-là, qui est établie entre ce verset et le verset 6, a donc un lien direct ou établit directement un lien entre le début et la fin de la péricope. Et ceci démontre que sa prière est enracinée dans une profonde conviction qu'elle sera efficace. Paul sait que Dieu accomplit parfaitement ce qu'il commence. Et de ce fait-là, a une pleine assurance que les Philippiens persévéreront jusqu'à la fin de sa course, de leur course. C'est la prière d'un berger à la gloire d'un Dieu souverain. L'accomplissement de cette bonne œuvre divine-là va culminer en le fruit ultime de justice. Verset 11, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Verset 11 est vraiment l'apogée de la prière de Paul. Le summum. Par nous-mêmes, nul n'est juste. Mais Christ justifie tous ceux qui ont véritablement foi en lui. Étant maintenant justifiés, on porte des fruits qui en découlent grâce à l'œuvre qui est continuelle de l'Esprit en nous, mais nos fruits ne sont pas parfaits. On est déjà parfaitement justifié en Christ, mais tout au long de notre pèlerinage, de notre marche, on est perfectionné à son image. C'est donc vraiment que par la vertu de Christ que le fruit de justice est accompli. Et si ce fruit est produit en nous, ce n'est bien qu'à cause de l'œuvre gracieusement et souverainement accomplie par Dieu lui-même. Paul termine donc de cette manière la communication du but de sa prière, parce que, incontestablement, à Dieu revient l'entièreté de la louange, de la gloire, et ce pour toujours. Et ceci en raison de notre appel. C'est la raison de notre appel. Soli Deo Gloria. Pour finir, on y voit dans ce passage que la joie de Paul est en fait lourde de sens, vraiment lourde. On sait qu'il écrit aux Philippiens depuis sa cellule de prison et qu'il risque la mort de manière imminente, comme on a dit. Pourtant, il inonde sa lettre d'affection, d'encouragement et d'espérance. Il débute et conclut son épître par l'expression de sa joie et sa prière des versets 3 à 11 est le premier instrument de son message pour manifester encore une fois son amour pour eux. Ultimement, il démontre en qui le tout se fonde, Christ. C'est grâce à Christ qu'on est réconcilié avec le Père. C'est par lui qu'on peut le connaître et prendre part à l'Évangile. C'est Dieu qui a initié l'œuvre du salut dans tous les élus, et c'est lui qui les préserve maintenant en communion avec lui. Cette bonne œuvre est entièrement accomplie à la gloire du Dieu Trine. Et il nous révèle de cette manière-là combien elle est précieuse. L'Évangile est précieux, parce que Christ est précieux. Si précieux, que même la persécution en son nom est un sujet de réjouissance, parce que Christ est notre joie. Alors même dans l'affliction, on est loin de vivre ce que Paul a vécu, mais nos afflictions ne sont pas négligeables. Elles font mal. Trouvons joie en Christ seul, sachant que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ainsi, la communion avec tous ceux qui prennent part à l'Évangile devrait aussi susciter, en le croyant, une profonde joie, parce que l'amour de Dieu est déversé dans les cœurs régénérés. On devrait tous prendre exemple de la fraternité qui régnait entre Paul et les Philippiens. Un lien d'amour les unissait vraiment, un véritable lien d'amour, à cause de l'Évangile. Nous, participant à la même grâce qu'eux, en vertu de notre union et de notre communion avec Dieu, on devrait aussi, en tant que frères et sœurs, être d'un même cœur, le manifestant par un support envers les uns, les autres, les uns envers les autres, et par l'unité dans la proclamation de la sainte doctrine, dans l'intercession, même dans nos afflictions, mais aussi dans nos sujets de joie, dans la paix, dans l'affection. À l'exemple de Paul, on devrait prier pour nos compagnons, rendant grâce à Dieu pour le fait que la même œuvre qu'il effectue en nous est aussi accomplie en eux. En demandant que tous augmentent en connaissance de Dieu et en sagesse, afin d'être un parfum de bonne odeur, porter des fruits qui lui sont profitables. Et d'ailleurs, certains pourraient, à la lumière de ça ou à l'écoute de ça, perdre la motivation de prier. Ne voyant plus l'utilité, puisque Dieu amène à la perfection ce qu'il entame depuis le début, n'est-ce pas? Toutefois, ça serait vraiment de passer nettement à côté du propos. Parce que bien qu'il ordonne toutes choses, il ordonne aussi les moyens, non? Et les moyens pour l'avancement du royaume sont principalement la prière et la prédication, la proclamation de l'Évangile. Et ils sont les instruments par excellence de l'Esprit. De toute éternité, Dieu a décidé de procéder de cette manière-là, sans quoi la vérité, la volonté divine ne s'accomplirait pas. Grand dilemme philosophique, certes. Mais nous devons donc, assurément, persévérer dans ces moyens de grâce-là, puisqu'on est en communion avec le Dieu qui est souverain, qui établit ces décrets-là et qui en donne les moyens. Et la souveraineté absolue, la bonté, la fidélité de Dieu fondera solidement notre assurance sur son roc et va certainement nous encourager, nous faire nous précipiter à être participants de son œuvre. Parce qu'en fait, ça dépend que de lui. Et voilà notre assurance. Voilà aussi pourquoi qu'on prie. Parce qu'on sait qu'on est entendu. On sait que c'est lui qui peut tout changer. Celui qui prie un Dieu qui ne croit pas souverain, prie dans le vide. Il prie une idole. C'est exactement cette assurance-là qui nous donne l'assurance d'aller au trône de la grâce. Et pour conclure, c'est important de noter que le tout trouvera son accomplissement ultime au jour de la deuxième venue, le retour du Christ. Quand il va revenir pour juger, pour le jugement dernier, et aura terminé sa médiation, il aura complété l'œuvre de rédemption. À ce moment-là, ayant passé un nouveau ciel, à une nouvelle terre en présence de Dieu, l'œuvre sera rendue réellement et totalement parfaite. À ce moment-là, on ne sera pas seulement délivré de la condamnation de notre péché, parce qu'on est déjà en Christ, mais on sera délivré de la puissance et de la présence même du péché. Aspirons donc avec grande joie à cette réalité-là qui est certaine, ce futur-là qui est certain, déjà établi. Regardons à l'espérance qu'elle est pour nous et honorons le Seigneur ici, maintenant, en cherchant sa face avec persévérance, en toute chose jusqu'à son jour. Soli Deo Gloria. Amen. Ô Père éternel, combien notre marche parfois est fébrile. Combien tu nous démontres, tu nous prouves de multiples manières que tu es bon, que tu es souverain, que tu es tout puissant. Qu'il n'y a rien qui échappe ta main. Mais combien parfois on demeure fébrile dans notre foi, demeure fébrile dans les situations. Seigneur, puisses-tu guider nos cœurs, nos pensées, nos yeux, constamment vers ta parole, constamment vers ton action. Qu'on puisse te reconnaître, Seigneur. Augmente notre foi. Et merci, parce que véritablement, nous pouvons avoir toute assurance en toute situation, en toute affliction, en toute douleur, en toute persécution. Dans les beaux jours comme dans les mauvais, tu es bon, tu nous guides, tu nous mènes à toi. Et même tes brebis qui sont égarées, tu ne les as pas oubliées. Seigneur, ramène-les dans ta bergerie, sachant que dans tes décrets divins, ils ne sont jamais sortis. Mais Seigneur, encore une fois, fais briller ta lumière dans leur cœur, ramène-les à la bergerie. Et ceux qui sont présents, affermis-les, sanctifie-les davantage, rends-les plus conformes à l'image du Fils. Reçois toute gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen.